Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Plusieurs réactions après qu'une grande partie des tombes du carré musulman du cimetière central de Mulhouse a été découverte saccagée, nous y reviendrons. Cette annonce qui s'inscrit dans la politique de réconciliation mémorielle initiée par Emmanuel Macron, l'ouverture par la France des archives sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie, notre invité sera l'historien spécialiste de la période coloniale Gilles Manceron. Après cette annonce de Roselyne Bachelot, nous écouterons aussi l'ex-député européen, éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick. L'indemnité inflation de 100 euros annoncée en octobre est destinée à 38 millions de personnes. Premier versement dès ce lundi aux étudiants boursiers. L'accès aux services numériques des millions de Français, en particulier en situation de précarité, n'y ont pas accès. L'ONG Emmaüs Connect aide ces personnes à accéder au numérique pour faire valoir leurs droits. Nous écouterons Camille Bardou, membre de l'association. La maire de Mulhouse, Michèle Lutz, a condamné hier les dégradations découvertes la veille dans le carré musulman du cimetière communal. Le Conseil français du culte musulman a aussi condamné ces actes, précisant sur Twitter que quasiment toutes les tombes ont été saccagées. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, maître Shamseddine Hafiz, a lui aussi dénoncé une abjection. Il appelle les autorités à prendre les mesures de coercition adéquates. La Fondation de l'Islam de France évoque un climat politique nauséabond où la détestation de la chose islamique envahit le spectre médiatique. Cette annonce, vendredi dernier, l'annonce de l'ouverture par la France des archives sur les enquêtes judiciaires de la guerre d'Algérie. Une annonce qui s'inscrit dans la politique de réconciliation mémorielle initiée par le chef de l'État français Emmanuel Macron. Entretien avec l'historien spécialiste notamment de la période coloniale, Gilles Manceron.
Madame Bachelot a annoncé quelque chose qui est extrêmement positif, hein, qui est le raccourcissement des délais de consultation des archives judiciaires. C'est très important parce que ces archives ne sont consultables qu'au bout de 75 ans. Et là, le délai serait ramené de 15 années et ça permettrait de connaître notamment des éléments autour des tribunaux spéciaux pour juger les crimes de l'OAS, par exemple, qui ont été mis en place à la fin de la guerre d'Algérie. Donc c'est important, mais attendons le texte et attendons confirmation. Parce qu'on sait qu'il est dans le gouvernement, au sein même de l'appareil d'État, il y a des aspirations contradictoires, dirais-je.
Et c'est un pas important, lorsque ce sera officiel, vers l'établissement de la vérité.
Oui, c'est une vérité qu'il faut établir. Et pour ce qui est à la fois des relations entre la France et l'Algérie, mais il ne s'agit pas que de cela, il s'agit aussi de la société française elle-même, qui a besoin de savoir son histoire, eh bien, il faut la vérité, effectivement. Même si la vérité est parfois dure à dire et dure à reconnaître, parce qu'il y a des pages de gloire dans l'histoire d'un pays, et puis il y a des épisodes moins glorieux.
Voyez-vous là une suite de pas vers justement l'établissement de cette vérité, l'ensemble des actions qui ont pu être engagées au cours de ce quinquennat et notamment depuis le mois de janvier 2020 et la remise du rapport par l'historien Benjamin Stora.
Il y a eu quelques pas de franchis par Emmanuel Macron dans ce domaine qui sont en conformité avec son intention proclamée dès avant son élection. Vous vous souvenez de 2017 où il avait parlé de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation. Donc il y avait beaucoup de promesses d'un travail nécessaire sur ce sujet. Et puis il y a eu quelques mises en œuvre, quelques petits pas. Et notamment en septembre 2018, la visite à Josette Audin. Puis ensuite il y a eu le rapport commandé à Benjamin Stora. Et puis il y a eu la réception des petits-enfants de maître Ali Boumendjel. Donc ça, ce sont des pas significatifs auxquels il faut rendre hommage. Mais parmi les préconisations du rapport Stora, il y en avait 21, il y en a qui n'ont pas été satisfaites. Je pense à la panthéonisation de Gisèle Halimi, par exemple, auquel le président a renoncé. Donc on attend. Et là, c'est à nouveau, vous avez raison, un signe qui va dans ce sens. Une mesure qui va dans ce sens. l'ouverture des archives judiciaires et policières de la fin de la guerre d'Algérie, quoi, en quelque sorte.
C'est cela, alors que les relations se sont récemment tendues avec l'Algérie, et cela intervient également peu de temps après la visite du chef de la diplomatie française à Alger, ce qui n'est pas anodin.
Oui, bien sûr, parce qu'elles avaient été tendues par le fait que le président Macron avait tenu des propos qui sont parus inadmissibles, non pas seulement aux yeux du gouvernement algérien, mais aux yeux du peuple algérien, de beaucoup d'Algériens, sur l'inexistence d'une nation algérienne avant 1830. Tous les historiens disent que ça n'a pas de sens, c'est un mythe colonial. Alors pourquoi avait-il repris cela? Peut-être pour plaire à une partie des forces politiques qu'il veut rallier pour sa prochaine réélection. En tout cas, je comprends que ça ait jeté un froid entre les autorités des deux pays. Mais peut-être a-t-il voulu corriger le tir, si je puis dire, et prendre une mesure inverse, préconisée par l'intermédiaire du ministre de la Culture, une mesure différente sur l'ouverture des archives.
Alors, la France avance à petits pas, direz-vous, sur la question mémorielle. En attendez-vous autant de l'Algérie aujourd'hui? Est-ce un souhait de votre part? C'est, je crois, le souhait de plusieurs historiens algériens.
Oui, beaucoup d'historiens algériens regrettent que, du côté des autorités de leur pays, eh bien, il n'y ait pas eu de rapport. Parce qu'il y en a eu un en France avec celui de Benjamin Stora, mais il n'y en a pas eu en Algérie, bien que le directeur des archives nationales, qui est en même temps un membre du cabinet de M. Tebboune, a été chargé d'en faire un. Ben, on l'attend encore. Donc, il y a un grand silence des autorités sur cette question, et beaucoup de collègues algériens, archivistes ou historiens, se plaignent de ce silence.
Comment le comprenez-vous, ce silence, de la part des autorités?
Il y a des historiens algériens qui font du bon travail, qui font des thèses et des travaux et des publications qui méritent vraiment attention, mais le président Tebboune a chargé un membre de son cabinet qui est un politique, qui n'est pas un historien reconnu par ses travaux et par ses capacités, et contre lequel sont souvent en conflit des archivistes ou des historiens algériens qui voudraient bien accéder aux archives et qui trouvent la porte fermée. Hein. Voilà, un choix bizarre, un choix discutable, qui aboutit que côté algérien, les choses n'avancent pas. C'est dommage parce que il y a un rapport côté français qui a des aspects qui peuvent être mis en cause, pourquoi pas, hein, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Ce n'est pas le cas du côté algérien où on préfère souvent utiliser une sorte de discours anti-français contre la France ennemie éternelle de l'Algérie. C'est intervenu dans certains journaux, exprimant peut-être une position officieuse des autorités, et ça ne fait pas avancer les choses, parce que la France est une société qui est divisée, qui a toujours été divisée, et qui comprend des personnes qui ont combattu la colonisation, ont été solidaires des Algériens dans leur lutte d'indépendance nationale. On ne peut pas tenir un discours contre la France en général, ennemi de tout temps, et de l'Algérie.
L'historien spécialiste de la période coloniale Gilles Manceron sur cette annonce faite vendredi dernier sur les archives de la guerre d'Algérie. Je vous propose à présent d'écouter l'ex-député européen Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité.
C'est une bonne décision après le rapport de Benjamin Stora et la reconnaissance par le président de la République du crime qui a été commis contre Maurice Audin. C'est un pas supplémentaires aujourd'hui, et on a besoin de deux côtés de la Méditerranée d'avoir la vérité. On a besoin de purger ce moment, et ce sera ça peut être un progrès considérable, à condition que ça se fasse dans un débat serein, dans un débat construit, en faisant que la France reconnaisse qu'elle était un pays qui dominait l'Algérie, qui colonisait l'Algérie. C'est une bonne décision.
L'établissement de cette vérité, elle avance à petits pas?
Je pense, parce que les travaux qui se font aujourd'hui, les travaux des historiens, notamment le travail qu'avait commandé le gouvernement, je crois que c'est le président de la République, à M. Stora, les livres qui sont en préparation, et puis la préparation de l'anniversaire du mois de mars, sont un moment propice à ce débat, et qu'il évolue de part et d'autre. Ce sera un beau signal pour nos deux peuples, et particulièrement pour la jeunesse algérienne et les enfants des Algériens qui sont devenus français et qui vivent en France. Et
souhaiteriez-vous qu'il y ait également un travail mené par les autorités algériennes? C'est notamment le souhait d'historiens algériens.
Oui, ben bien sûr, il faut un travail de part et d'autre. Il faudrait d'ailleurs un travail commun qui peut être contradictoire, mais un travail commun, parce que nous avons besoin de moins de division, plus de fraternité, plus de compréhension entre nos deux pays, entre nos deux peuples.
L'ex-député européen, éditorialiste à l'Humanité, Patrick Le Yarrick. Un Palestinien a été tué ce matin lors de heurts avec les forces israéliennes. C'est arrivé en Cisjordanie occupée, à Naplouse. L'homme âgé de 31 ans a été touché à la tête par des tirs. L'Irak est en discussion avec l'Arabie Saoudite pour acheter de l'électricité. C'est ce qu'indique le ministre irakien du pétrole. Le pays dispose de réserves importantes d'hydrocarbures, mais le secteur électrique est miné par des décennies de conflits et aussi par la vétusté des installations. Un sommet du Conseil de coopération des pays du Golfe, il est prévu ce mardi à Riyad. Ce sera le 42e. L'élection présidentielle prévue le 24 décembre prochain en Libye, une élection dont la tenue reste incertaine. À 2 semaines de cette échéance cruciale, la Haute Commission nationale électorale a annoncé samedi un report de la publication de la liste définitive des candidats. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique autour de 3%. En 2022, au Maroc, le FMI affirme que la reprise économique devrait se poursuivre dans les années à venir, malgré les effets de la pandémie de coronavirus. Des millions de Français n'ont pas accès aux services numériques, en particulier des personnes en situation de précarité. L'ONG Emmaüs Connect aide ces personnes à accéder au numérique pour faire valoir leurs droits. Camille Bardou, membre d'Emmaüs Connect.
Emmaüs Connect, c'est l'association du mouvement Emmaüs qui lutte contre la précarité numérique. On vient de sortir un manifeste pour le réemploi solidaire des équipements numériques. Et en fait, en effet, dans ce manifeste, nous proposons 10 mesures pour faire du réemploi informatique vraiment le moteur des transitions numériques, sociales et environnementales. Alors, ce que l'on imagine, c'est vraiment une réponse locale et efficace qui s'appuie sur l'expertise d'acteurs clés que sont aujourd'hui ce que l'on appelle, nous, les reconditionneurs solidaires. Ce sont toutes ces structures d'insertion qui permettent à des personnes de se réinsérer par l'activité professionnelle dans des milieux, dans des secteurs autour du reconditionnement, de la réparation d'équipements numériques. Et on a envie vraiment de porter ces filières co-construites entre les collectivités, les acteurs de l'insertion, du reconditionnement et les structures de l'action sociale d'un territoire.
Vous vous intéressez aux personnes qui sont exclues du numérique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie de la population qui n'a pas accès aux ordinateurs et même à Internet?
Oui, alors on parle de 13 millions de Français en difficulté face au numérique et d'à peu près 8 millions qui sont complètement exclus du numérique faute d'équipement. Donc ça représente une part très importante quand même de la population française. Et parmi ces personnes, il n'y a pas vraiment de personnes type. On va avoir autant des étudiants qui se retrouvent à rendre des devoirs en les tapant sur leur smartphone parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, des personnes âgées qui ne peuvent pas contacter leurs proches parce qu'ils ne savent pas maîtriser Zoom ou autre application qui leur permettrait d'entrer en contact avec leurs proches. Et puis on a des personnes en recherche de travail. Enfin voilà, on a vraiment pas vraiment de type de public que l'on accompagne. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'à la fois, c'est quelque chose de polymorphe, mais ça touche en effet beaucoup de personnes et la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver ce problème et le rendre vraiment visible aux yeux de tous.
Vous pensez notamment à l'école à la maison en période de crise sanitaire, mais aussi tout simplement au fait de pouvoir prendre un rendez-vous pour avoir une dose de vaccin.
Oui, ça peut être ça. Et puis, vous le savez peut-être, en 2022, toutes les démarches administratives, elles vont être digitalisées. Donc, même pour s'activer sur Pôle emploi, avoir accès à ses droits, ça va devenir en fait un vrai luxe. Et pour les personnes qui aujourd'hui n'ont pas d'équipement ou ne savent pas l'utiliser, n'oublions pas aussi que voilà, ça n'est pas inné. Et ben en fait, c'est pour ces personnes-là, ça va devenir un vrai parcours du combattant.
Camille Bardou, membre de MAU Se Connecte, elle répondait à Loïc Barrière. Les versements de l'indemnité inflation commencent ce lundi pour les étudiants boursiers. L'indemnité de 100 euros avait été annoncée par le Premier ministre le 21 octobre dernier. Elle concerne 38 millions de personnes qui perçoivent moins de 2000 euros nets mensuels défiscalisés. Elle sera versée en une fois et automatiquement. Claude Guéant est en prison. L'ancien ministre avait été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme en appel dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Claude Guéant a été incarcéré ce matin à la prison de la Santé. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est tout juste 12h16. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Thomas Faure, président de l'UDI dans le Vaucluse. Une émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.